Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je m'appelle Adrien Garcia, je suis designer et chaque semaine, je vais à la rencontre des hommes et des femmes qui font la mode. Qu'ils soient créateurs, entrepreneurs, institutionnels ou influenceurs, je les interviewe pour comprendre leur parcours, leurs problématiques et leurs stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Dans ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Alexandra Van Hout. Elle est la fondatrice de Tagwalk, le Google de la mode. Dans cet épisode, on parle de sa vie avant Tagwalk, de la naissance de l'idée jusqu'à sa mise en place. Elle nous parle de ses difficultés et de sa rencontre avec Carmen Busquet, la papesse de la fashion tech. Elle nous parle aussi de l'importance de développer son endurance, car l'entrepreneuriat est un marathon qui ne se termine jamais. Cet épisode est truffé de bons conseils et de bonnes énergies, alors à vos carnets. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis ce soir avec Alexandra Van Hout de Tagwalk. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir.
Est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît ?
Oui. Donc moi je m'appelle Alexandra, j'ai 28 ans, j'ai créé un site qui s'appelle tagwalk.com. Tagwalk, c'est un moteur de recherche que j'ai créé en avril 2016 en version bêta et en septembre 2016 en version 1. Et voilà.
Bah, c'est très bien. Est-ce que je peux te demander de reprendre ton parcours depuis tes études supérieures jusqu'au lancement de Tagwalk ?
Ouais, donc moi je voulais vraiment être styliste, photo quand j'étais plus jeune, c'était vraiment mon rêve. Et mes parents voulaient vraiment que je fasse des études plus poussées, entre guillemets. Donc ils m'ont fait faire du mandarin pendant 4 ans, donc j'ai étudié le chinois, j'ai habité en Chine pendant un an. Après en master j'ai pu enfin faire de la mode, donc j'ai été à la London College of Fashion pour faire du stylisme. Et après je suis rentrée, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Lanvin en merch avec Albert Elbaz à l'époque. Donc ça, c'était incroyable. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans une agence de prod, mais je n'étais pas trop sûre de ce que vraiment je voulais faire. J'avais 21 ans, donc je me posais pas mal de questions. Et après, à l'âge de 22 ans, j'ai vraiment commencé à être assistante. Et donc, j'ai travaillé pour plein de magazines, Numéro, entre autres, Grazia, Vogue Italie. Après, j'étais en freelance pour enfin, il y en a tellement des titres que je ne pourrais pas tous les dire, mais beaucoup. Et ça, c'est vraiment mon parcours entre 21 ans et 25 ans, quoi. 20 et 25 ans.
Ouais. Et donc là, tu avais vraiment un job de styliste freelance. Ça consistait en quoi ton job pour ceux qui ne sont pas dans la mode et qui ne savent pas en quoi ça consiste un job de styliste, c'est quoi ?
Bah, ton job en tant qu'assistante styliste, c'est d'essayer d'interpréter ce que la styliste veut et lui fournir les photos et les vêtements qui correspondent à cette vision. Pour donner un exemple, si ma boss me disait à l'époque « je fais du total cuir », il fallait que mon métier, c'était de faire tous les défilés un par un, de voir toutes les pièces en cuir, de faire toutes les photos des pièces en cuir, d'imprimer toutes les photos des pièces en cuir, qu'elle choisisse toutes les pièces en cuir, que je demande toutes les pièces en cuir, de les recevoir à la rédaction, on les shootait, donc on les faisait photographier pour un magazine, et ensuite, on les renvoyait. Ça, c'était en gros mon métier, tous les jours, plus ou moins.
Et donc, tu as fait ça pendant 4-5 ans, jusqu'à 25 ans.
Exactement.
Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Il y a eu plusieurs facteurs, je pense il y en a plein. Le premier, c'est que je devenais extrêmement impatiente, et je suis très impatiente de nature, donc ça s'empirait parce que il y a trop de défilés, il y a trop de collections, il y a trop de saisons, et que je trouvais jamais les pièces que je voulais, je trouvais jamais les jeunes designers, j'avais jamais le temps. Et donc ça a commencé un peu à m'énerver, entre guillemets, gentiment. Ensuite, il y a quand même Instagram qui est vraiment arrivé à cette époque-là, donc c'était en 2014-2015. C'était déjà sur le marché, mais en France, ça commençait à vraiment arriver. Il y a eu Uber, où tout allait hyper vite, Deliveroo, où tout allait super vite. Et c'est vraiment cette idée de tout avoir très simplement. Et dans la mode, il n'y avait pas. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi il y a autant de défilés, autant de tout, mais il n'y a rien qui puisse les catégoriser. Et après, l'autre facteur, c'est que je ne voulais plus du tout être assistante styliste, quoi.
T'avais envie d'entreprendre déjà, gamine, ou pas du tout
Non, bah moi je suis quelqu'un qui... Je mène, hein, généralement. Je suis pas quelqu'un qui suit. Je suis très dure comme personne. Mais après, non, je me suis jamais dit j'ai vraiment désespérément envie de faire mon site. C'est juste quand j'en ai eu tellement marre que j'ai... Enfin, la question s'est même pas posée. C'est venu très, très naturellement.
Ok. Alors que t'as commencé par quoi ?
J'ai déjà par le nom. C'est vraiment le plus important pour tous les gens qui veulent monter leur boîte. Si ton nom marche pas en anglais, c'est pas bien. Si ton nom veut pas tout dire dans la même intitulé, c'est pas bien. Si ton nom est trop long, c'est pas bien. Quand on y pense, Net-à-porter, c'est le prêt-à-porter sur l'internet. Il y en a plein, hein, des comme ça. Mais effectivement, j'ai commencé vraiment par le nom. tagwalk. Je comprenais, enfin, c'était catwalk avec le tagging en même temps, donc c'était hyper cool. Ensuite, j'ai commencé par.
Je t'interromps. Je vais t'interrompre beaucoup.
Ouais, vas-y, vas-y.
Ça prend. Cette phase-là de recherche de nom, ça prend combien de temps concrètement?
Tu vois, ça m'a pris une heure. Je veux dire, quand Non, mais quand non, l'idée est vraiment là.
Ouais.
Et moi, j'étais avec des potes, hein, quand j'ai pensé à ce nom, j'étais avec ma famille et plein de potes qui étaient avec nous. Et on s'est tous mis autour d'une table et j'ai dit, OK, bon, faut que je trouve un nom pour ce truc que je veux faire.
Ouais.
Et en fait, on a brainstormé, on a dit, OK, défilé égale catwalk, égale runway, égale machin, égale truc, etc.
Ouais.
Donc, c'est hyper important de. Le nom, c'est quand même. Donc, j'ai vraiment commencé par ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai contacté des avocats.
Direct.
Ouais. Bah oui, t'es obligé. Quand tu veux monter ta boîte, il faut des statuts, il faut comprendre où déposer, comment déposer, dans quelle catégorie déposer. Enfin, il y a un moment donné où je pense que tu peux pas tout faire de bien. Il faut savoir déléguer les trucs où, enfin, moi, c'est pas du tout mon expertise, quoi. Enfin...
Et puis, t'avais pas envie de mettre beaucoup d'énergie là-dedans.
Mais
et puis,
zéro tu connaissais énergie. Rien en plus. Enfin, surtout ouais. Zéro. Enfin, je connaissais rien, donc j'ai pas perdu mon temps sur Internet
ouais.
À regarder les clauses, les machins, les trucs. Et ensuite. Je savais déjà très bien ce que je voulais du site. Enfin, je savais tout ce que je voulais pas et je savais tout ce que je voulais.
Mais cette idée, elle a germé, elle s'est mis du temps quand même. C'était toutes tes années d'assistant styliste où t'as réfléchi à ce truc-là.
Bah.
Tu t'es pas réveillé un matin avec l'ampoule assez éclairée d'un coup.
Bah, en fait, sincèrement, oui, dans le sens où inconsciemment et c'est vraiment l'inconscience qui a travaillé pendant 5 ans. Il y avait plein de choses qui m'énervaient. Les publicités avec les croix, moi je trouve pas les croix, ça me saoule. Le fait d'avoir un paywall quand tu vas sur un site, ça me saoule. Il y avait plein de choses en fait, le fait de pas avoir les vêtements bien, le fait que les vêtements soient mieux que les marques qui ont plus d'argent soient mieux catégorisées que les autres, sur tous les sites qu'on connaît. Tout ça, c'est des choses qui, en fait, vraiment dans mon inconscient, je me disais mais c'est tellement pas juste. Surtout que c'est tellement une perte de temps quoi. Moi qui suis extrêmement pour le coup pas patiente. Et en fait, inconsciemment, tout ça a commencé à se mûrir. Et un jour, je parlais à une fille et j'ai dit, mais franchement, qui voulait monter une boîte dans la mode, et elle me parle de son projet que je trouvais médiocre. Et je lui dis, mais moi, si j'avais un projet que tu devrais faire, ce serait ça. Et, mais il y a longtemps, hein, 2014. Et 2015, rien. Et je dis à une amie en commun, qu'est-ce qu'elle est bête, cette fille. Je lui ai donné l'idée du siècle et elle ne l'a pas fait. Elle est complètement idiote. Et elle me dit, mais si c'est vraiment l'idée du siècle, pourquoi est-ce que tu ne fais pas toi? Et c'est venu comme ça. Enfin, c'est pas du tout... Enfin, je me suis pas posé dessus, j'ai pas fait une réunion familiale en disant voilà, j'arrête mon job. Enfin, ça s'est venu vraiment très naturellement.
Et d'ailleurs, t'as pendant cette période-là, enfin, on va continuer sur. T'as trouvé le nom, t'as déposé le nom, qu'est-ce que t'as fait après?
J'ai contacté un développeur en premier temps.
Tu l'as trouvé où?
Je l'ai trouvé par mes avocats.
Ah!
Mais ils ont toujours des bons pistons généralement.
Enfin, souvent, d'ailleurs, ces avocats, t'as été les chercher où? T'as tapé sur Internet ou c'était des... Non. On t'a introduit?
Ça, c'est hyper important. Moi, mais tous les gens qui m'aident et qui m'aident à ce jour, ce sont que des gens que je connais en fait. Des amis d'amis, des gens qui se sont conseillés. C'est des gens hyper fidèles, un. Deuxièmement, c'est des gens qui veulent vraiment ton bien, qui sont pas là à compter toutes les demi-heures que tu passes au téléphone avec eux quand t'as un problème. Et moi, mon cercle très très restreint de gens qui m'aident, et j'en ai un très petit, c'est jamais des gens vraiment dans l'industrie du tout, mais c'est vraiment des gens de confiance dans chaque domaine différent, qui ont des compétences différentes. Et donc mon développeur, je lui ai expliqué rapidement, je lui ai dit voilà ce que je veux. J'avais fait une maquette un peu pourrie, mais plus ou moins de ce que je voulais.
Sur Instagram, enfin, pas sur, excuse-moi, sur PowerPoint.
Ouais, exactement. Mais j'ai fait la maquette, ça ressemble pas au site là, mais c'est pas très différent de ce que j'ai fait. C'est beaucoup plus joli là, bien évidemment. Et il y a une graphiste qui me l'a fait parfaitement, mais en vrai, c'est exactement ma vision. C'était blanc, épuré, propre, straight to the point, derrière, enfin, qu'on comprenne vraiment le site en 3 secondes et demie et tout ça. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai contacté toutes les marques une par une, que je connaissais parce que j'avais d'assistantes, donc forcément, je connaissais les attachés de presse. J'aurais dit en 3 lignes, voilà, je lance un site avec tous les défilés rapidement. Ils m'ont envoyé toutes les photos. Et maintenant, j'ai mon propre photographe, mais à l'époque, j'avais eu les droits de leurs photos. Et j'ai tout tagué seul sur mon canapé manuellement en 2 langues pendant 6 mois à peu près. Et après il a été lancé plus ou moins.
Donc la date, tu peux nous rappeler la date de lancement?
Ouais. Bon, toujours dans le cours de mon impatience, j'ai lancé beaucoup trop tôt. J'ai lancé le 12 et 13 avril 2016.
Pourquoi c'est trop tôt?
Parce que le site n'était pas prêt du tout. Mais j'en avais tellement marre de travailler dessus que du coup, je voulais lancer, alors qu'en fait, j'aurais dû attendre, je pense, septembre. Parce qu'il y avait...
Parce qu'il n'y avait pas assez de photos, il n'y avait pas assez de marques.
Non, j'ai lancé avec toutes les marques, pour le coup. Mais non, mais parce que...
C'était pas assez fluide,
il n'y avait pas de homepage, tu ne devais pas forcément te créer un compte, les moodboards ne se voyaient pas forcément bien, enfin...
Mais l'important, est-ce que ce n'est pas forcément de commencer?
Ouais, mais je pense qu'il faut se lancer, il faut commencer, mais il faut aussi faire les choses bien. Et je pense qu'avec un peu de recul...
Tu as joué des tours de ce truc-là ou pas, tu penses?
Bah, ça m'a appris en tout cas. Ça m'a appris que moi j'ai eu quelqu'un, un espèce de mentor qui m'a pas mal aidé au lancement de mon site. Qui me disait, ok, c'est génial ton site, mais qui va dessus? Et en fait, j'avais aucun moyen de savoir. Parce que je lui dis, ouais, tous les gens de l'industrie. Il me dit, mais qui? Comment tu sais que c'est des gens de l'industrie? À quel moment t'es au courant? Et en fait, effectivement, moi j'avais le retour des gens qui me disaient, j'adore ton site, c'est génial, mais je savais pas du tout. Et donc, j'ai appris au fur et à mesure comment il fallait vraiment. En fait, généralement, chaque chose sur ton site a un but et chaque dépense a un retour sur investissement. Je sais pas comment expliquer. Enfin, tout est assez cadré, en vrai, dans la tech. Si tu fais pas juste un truc parce que ça t'amuse, c'est que tu le fais parce que beaucoup d'utilisateurs te l'ont demandé. Nous, on a lancé les mannequins sur le site. On référence tous les mannequins parce que les gens nous l'ont demandé. Enfin, à la rigueur, moi, qu'ils y soient ou pas...
Toi, c'était pas une demande particulière à l'époque?
Non, j'y avais pas forcément pensé, en fait. Ouais. Mais pour les gens, c'était hyper important.
Et donc, toi, t'avais aucun background dans la tech? Non. Tu savais pas coder, tu t'avais aucune connaissance dans cet esprit-là?
Non, je savais pas ce qu'était la data, je savais pas ce qu'était une API.
Mais ça t'a pas fait flipper?
Non, pas du tout.
Non?
Non, pas du tout. Non, parce que j'apprends assez vite. Deuxièmement, parce que je suis entourée par des gens vachement bien. Et troisièmement, parce que... quand c'est ton propre site, il y a un espèce de truc qui sort en toi où tu deviens extrêmement curieux sur des sujets qu'à la base, enfin, t'intéresses pas du tout. Et moi, je pense que je suis hyper calée maintenant, en vrai, sans mentir, sur des trucs où il y a 2 ans, mais...
Tu comprenais rien.
Mais rien.
C'était du charabia.
Ah ouais, du charabia, et maintenant, mais vraiment, je peux faire une conf, hein. Sans problème. Vraiment sans problème. Trop donc, cool. Ouais.
Donc c'est accessible même à un styliste qui a eu une formation plutôt créative.
Complètement.
Parce que j'ai l'impression que tu vois, souvent, les créateurs, les créatifs que je rencontre, ils se disent toujours, c'est pas pour moi, quoi. Le business, c'est pas pour moi, je comprends rien, j'ai pas envie de me plonger dedans. Le code, l'informatique, les gens mettent ça sur un piédestal et ils se disent, je suis pas formaté pour ça. Et t'es vraiment la preuve que, en fait...
Bah oui, mais faut pas oublier que moi, j'avais un développeur aussi avec moi. Hein.
Oui, non, mais bien sûr. Mais t'as pas eu peur de te lancer dans une aventure qui est hyper tech alors que ton background n'est pas du tout tech, quoi.
Oui, je le vois jamais comme ça, mais oui, effectivement, c'est un super bon point, c'est que pour moi, c'était pas une barrière. Je me suis pas dit, ah, ça va être une catastrophe, la tech, je comprends rien. Je me suis juste dit, c'est un manque, c'est un besoin. Moi, j'en ai besoin. Donc, égoïstement, si moi j'en ai besoin, d'autres personnes vont en avoir besoin. Mm. Et après, the rest is history, quoi. C'est que pour moi.
Revenons sur donc, le déroulé. Mm. Tu lances ta version bêta, tu le lances un peu trop tôt. Ça te joue des tours, enfin, relativement minimes, parce que ça n'a pas mis en péril la baraque. Non, mais... tu lances la version. Comment on appelle ça, la version 1
V1, ouais.
V1, en septembre 2017. Mm-hmm. Et là, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous.
Et là, tous les jours, ça croît. On a de plus en plus de comptes créés, de plus en plus de gens qui reviennent. On a un taux d'engagement qui commence à devenir super élevé. Et je commence à avoir, je crois, de mémoire, pas mal de presse à partir de septembre. Moi, je n'ai pas d'attaché de presse, donc c'est venu hyper organiquement. Tout ce que j'ai, c'est venu vraiment par des gens que j'ai contactés sur Instagram. J'avais un espèce de truc où je fais très, très, très attention à comment je dépense mon argent. Donc, je ne voulais pas de dépenses. C'est pas que ce n'est pas nécessaire, mais en tout cas, pas nécessaire pour moi à ce stade-là dans ma boîte. Et ça croît. Et puis là, plus ça croît, plus tu vois les problèmes, quoi. Donc, tu te dis, mince, maintenant, il faut rajouter les accessoires. On n'avait pas l'homme. On a rajouté l'homme. Ensuite, on a rajouté le street style. Ensuite, tout a commencé à vraiment grossir parce qu'au final, on avait la demande. Et on s'est dit, bon, bah, quitte à le faire, autant le faire bien. Et autant le faire
jusqu'au
bout. Et autant le faire avec tout, avec 360 degrés de la mode, le plus rapidement possible. Le digital, c'est ça aussi. C'est qu'il faut aller. Ça peut aller très vite, comme pour Tagok, mais il faut aussi rester très vite. Donc, c'est un marathon qui se finit jamais. Enfin, il n'y a pas un jour dans cette boîte où on ne change pas d'idée. Il n'y a pas un jour où les priorités du board là-bas, que vous n'allez pas voir, mais. Du board là-bas, ces post-it, ils changent tous les jours. Les priorités changent tous les jours. Enfin, je pense que ce n'est pas la technique qui manque pour les gens qui doivent entreprendre. Mmh. Moi, je pense que c'est le mental. Le mental, c'est clé. Parce que c'est épuisant. C'est que tu ça finit jamais.
Moi, c'est un marathon qui finit jamais.
Mais jamais. Vraiment, je... Jamais. Et pourtant, j'adore ce que je fais. Mais c'est vrai que tous les jours, se réveiller et trouver de la motivation pour toi, pour ton équipe, pour tes investisseurs, pour tes potes, pour tes clients, etc., pour tes journalistes, il faut vraiment avoir un très, très bon mental. Parce que c'est beaucoup tous les jours de l'année. Et en plus, ta boîte, quand c'est ta boîte, tu travailles tout le temps. Enfin, moi, il n'y a pas un jour depuis que j'ai lancé ma boîte, alors qu'avant, je travaillais gentiment, mais je n'étais pas non plus Wonder Woman, quoi. Là, je travaille tout le temps. Mais parce que j'ai envie.
Ouais, parce que ça t'éclate.
Ouais, ou parce que je me sens coupable de ne pas le faire, ou parce que je me dis, chaque minute que je perds en faisant autre chose, du temps perdu. Enfin, c'est vraiment... Enfin, c'est tout le temps, quoi. Et je ne suis jamais vraiment au bureau, je suis tout le temps en rendez-vous, mais en même temps, je travaille tout le temps. Donc, je pense que le mental, c'est ça qui doit faire peur, à mon avis. Tous les jeunes à qui je parle, et il y en a plein qui me contactent en ce moment, je leur dis, mais l'idée, c'est bien de l'avoir, mais c'est après que ça se corse, vraiment, parce que ta première année, elle est easy. Hein. Ah, c'est vrai, la première année, c'est la plus cool. Personne
alors, comment on se prépare à ça? Et comment on se protège, sinon
Ouais, bah, franchement, je ne saurais pas dire comment on se prépare. Je pense que c'est vraiment une forme de personnalité.
Je pense que c'est vraiment. T'as toujours été quelqu'un de déterminé, de fonceuse.
Ouais, et puis oui, et pour le coup, oui, et de forte, quoi. Genre, il n'y avait pas de bullshit, quoi. Donc, moi, quand je dois faire un truc, je le fais. Quand je suis fatiguée, qu'il faut finir à je ne sais pas quelle heure, je vais le faire, même si il y a un espèce de truc en moi où, tant que ce n'est pas fait, ça m'énerve. Mais j'aime beaucoup aussi le stress. Donc, moi, je suis quelqu'un qui travaille bien sous stress. Forcément, ça aide. Mais tu as des personnalités qui n'aiment pas ça du tout. Mais le truc, c'est que quand t'es entrepreneur, tu peux pas avoir des gens forcément comme ça dans ton équipe, quoi. Il faut que t'aies des gens...
Justement, donc ça, t'es plus toute seule aujourd'hui. Dès le départ, t'avais un développeur.
Ouais, exactement.
Aujourd'hui, vous êtes... Enfin, ils viennent de partir, mais ils étaient quand même assez nombreux. J'étais assez surpris.
Mais il y en a deux qui manquaient aujourd'hui, mais ouais, ils sont nombreux.
Vous êtes combien maintenant et...
Ouais, pardon. Là, on est... Non, vas-y. Là, on est combien maintenant et...
Vous êtes combien maintenant et surtout, comment tu les as choisis, ces gens-là? Parce que tu me dis que toi, tu bosses comme une malade, mais tu ne peux pas leur demander de bosser non plus, d'être investi autant que toi, à même hauteur que toi.
Ouais, donc maintenant, on est 11, on va être 12 là.
C'est incroyable quand même.
Ouais, c'est beaucoup.
Non, mais surtout qu'il y a 8 mois, t'étais toute seule.
Ouais, mais en janvier 2017, on n'était que 3. Donc en un an et 3 mois, on a quand même triplé, quadruplé même. Margot... que t'as raté est vraiment avec moi depuis le 13 avril 2016. Donc c'est vraiment la première personne. Elle a commencé avec moi 6 mois sur le canapé.
Chez toi.
Donc ouais, chez moi, sur mon beau canapé Ikea. Donc Margot, elle a vraiment commencé avec moi. Elle y est allée un peu à l'aveugle. Elle m'a rencontrée, elle savait pas trop quoi s'attendre. Et puis elle est toujours là aujourd'hui et ça se passe super bien.
Qu'est-ce que tu leur dis à l'époque aux gens pour qu'ils te rejoignent?
Pas grand chose, je leur dis juste que... non, parce que Margot était assistante avant, donc elle comprenait pourquoi Tagwalk était bien. Elle comprenait l'idée. Et je pense qu'il fallait forcément quelqu'un qui comprenne l'idée, parce que sinon c'est compliqué. Moi, j'avais pas d'associé, hein. J'en ai toujours pas. Donc Margot, elle a très vite compris. C'est quelqu'un qui m'a aidé vraiment à faire cette V1, justement. Mm. À tout mettre à plat, à dire, OK, il y a des fautes d'orthographe, parce que maintenant c'est automatisé, mais avant... On faisait tout à la mano, tout à la main. Mmh. Donc tous les tags, il y avait des fautes d'orthographe. Enfin, c'était n'importe quoi quand j'y repense, franchement. Donc Margot a commencé vraiment avec moi. Et ensuite, j'essaye de recruter par poste que personne ne se marche sur les pieds. Donc j'essaye que chaque poste soit vraiment un truc un peu clé. Donc un développeur avec un deuxième maintenant développeur. Ensuite Margot avec une deuxième personne qui est avec elle maintenant. Et c'est des gens, je leur dis, oui, je peux pas leur demander de travailler autant. Mmh. En même temps, je suis désolée, mais quand t'as 21 ans, entre 21 et 30 ans, c'est le seul moment où tu vas pouvoir travailler dur, pas avoir d'enfants, pas être marié, à travailler pour une boîte où c'est plutôt à la cool, et t'investir. Et ces gens-là, c'est quand même des gens qui ont souvent des participations capitales. Mais c'est compliqué d'avoir des profils comme ça. Enfin, des gens comme Margot, j'ai beaucoup de chance de l'avoir, dans le sens où... Tago, que c'est son bébé autant que le mien, qu'elle est hyper impliquée, qu'elle est toujours là, elle est hyper présente. Florian, le développeur, pareil. Enfin, c'est quand même des gens qui... Tu vois, où je sens que c'est important pour eux. Mmh. Et c'est hyper important parce que moi, je n'ai pas d'associés. Donc, si je n'ai pas mes développeurs et mes employés, entre guillemets, qui sont aussi impliqués que moi, ou aussi content pour moi quand un article sort, ou qui me pose des questions quand je rentre d'un gros rendez-vous, etc. Ça sert pas à grand chose de moi, enfin, de faire cette aventure avec eux, quoi, pour moi.
Donc revenons sur le déroulement. Aujourd'hui, moi j'en reste à septembre. Septembre 2017, tu lances la version la V1.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe après depuis 8 mois? Quelles sont les grandes étapes de ta walk?
C'est vrai que ça fait que 8 mois en fait.
Bah ouais. Mais t'as l'impression que t'as
genre, ça fait 10 ans, quoi. j'ai rencontré Carmen Busquets en novembre 2017.
Mm-hmm. Alors, non, explique-nous qui c'est, parce que...
Non. J'ai rencontré Carmen... Non, 2016, pardon. Oui, ça, 2016. Carmen, c'est une investisseuse qui investit dans Net-a-Porter. C'est la première de Net-a-Porter. Puis de Farfetch, Mode Operandi, List, Business of Fashion et il y en a d'autres, Armarium, enfin il y en a plein. Et c'est mon premier investisseur. Et Carmen, c'était vraiment pour moi le goal dans ma vie, c'est que je voulais que Carmen soit mon investisseur. Et je l'ai contacté, je l'ai harcelé par email, comme quoi ça marche, hein, une bonne quinzaine de fois. Et je l'ai rencontré en novembre 2016.
En et là gros. Qu'est-ce qui se passe alors?
Déjà,
la première question, c'est comme, enfin, tu l'as harcelé, tu lui envoies 15 emails, tu lui dis quoi dans ton email pour qu'elle...
Mais moi, je voulais pas de l'argent à la base de Carmen. Enfin, je voulais vraiment l'encontrer parce que c'est...
Elle t'inspirait.
Oui, enfin, Carmen, elle peut pas inspirer quelqu'un qui est dans la mode et dans la technologie. Elle comprend mieux que tout le monde ce monde-là. Elle est beaucoup plus rapide, elle a une vision beaucoup plus lointaine que des gens comme moi. Enfin, elle voit beaucoup plus loin, toujours, tout le temps. Et rien, je lui ai juste dit qu'en trois lignes, que j'avais monté ma boîte, que je souhaitais la rencontrer parce qu'elle avait un parcours de dingue et que je voulais la rencontrer.
Et vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés.
Et vous êtes dit quoi?
Et on s'est dit quoi? Elle m'a demandé des questions très simples. Comment s'appelle ta boîte? C'est pour ça que le nom est vital. Elle m'a dit, elle m'a demandé pourquoi est-ce que je l'avais créée. Donc le storytelling est vital.
Et c'était quoi le storytelling?
C'est que j'étais assistante et que j'en avais marre parce que je trouvais pas les vêtements. Enfin, c'est la vérité, quoi. Enfin, j'ai pas inventé une histoire, mais c'est vraiment sûrement la vérité. Mmh. Ensuite, elle m'a demandé combien d'argent j'avais dépensé entre le jour où j'ai voulu créer ma boîte et le jour où je la rencontre.
Tu lui as répondu quoi?
La vérité.
Tu peux nous le dire?
Non. Je suis désolée, mais...
Pas de soucis.
Mais c'était pas très haut. C'était pas très très haut. Donc, je lui réponds... Elle me dit ok, et c'est hyper important pour les investisseurs de savoir si tu sais gérer ton argent en fait. Parce que c'est quand même leur argent à eux, qu'ils ont gagné, qu'ils donnent à toi. Ils ont vraiment besoin de comprendre que tu fais pas des notes de frais pour tes déjeuners, que tu prends pas des taxis à gogo, que tu sais rester hyper humble, que tu commandes tes cartes sur Vistaprint, t'es pas sur un truc canon rue Saint-Roch. Enfin, je veux dire, c'est hyper important pour eux de savoir que tu sais manager ton argent. Et la dernière question, c'était c'est quoi ta stratégie de sortie? Et je lui dis voilà ce que moi, dans l'idéal, j'aimerais bien faire. Et voilà. Et de vrai, c'est ça.
Tu la rencontres, qu'est-ce qui se passe? Elle te rejoint. Enfin, elle investit sur toi.
Du coup, elle m'a dit mais tu veux combien pour ton investissement? Je lui dis non, enfin, je venais pas trop pour ça à la base. Moi, je veux vraiment juste vous parler, ce qui était vraiment la vérité. Et elle me dit... non, et après, ça s'est fait, on s'est très, très bien entendu. Et ça s'est fait très rapidement.
D'accord.
Voilà.
Ça t'a permis de faire quoi, ça?
Carmen, elle m'a permis de faire plein de trucs. La première chose, c'est qu'elle m'a donné un vrai tampon dans la mode. C'est comme un espèce de tampon où quand Carmen investit, ça aide quand même vachement. Ensuite, Carmen, c'est quelqu'un qui est très forte en stratégie un peu globale. Donc, c'est quelqu'un où si vraiment t'as une question sur un partenariat, sur de la data, où elle a tellement tout vu que c'est vraiment quelqu'un qui sait te mettre avec les bonnes personnes, te mettre en contact avec les bons. Elle met très bien en contact les gens quand elle sent qu'il y a des bonnes affinités entre elles. Et surtout, elle a un très bon œil, elle a un très bon œil extérieur. Donc moi, quand j'ai des questions sur des embauches ou pas, etc., c'est toujours, elle est toujours présente, quoi.
Et elle est disponible, quand même?
Ouais, elle est super disponible.
Ça me fait toujours halluciner, ce genre de choses.
Ouais. Moi aussi, je sais pas comment elle fait, mais j'étais avec elle hier, hein, donc... Elle est disponible pour les bonnes choses. C'est que si c'est pour me lamenter sur mon sort parce que je suis fatiguée, enfin clairement non, elle est pas du tout disponible. Mais il y a deux semaines, j'avais un souci, mais j'arrivais à un endroit où j'avais besoin d'aide et Je l'ai rejoint un week-end, on a passé un week-end entier, elle m'a aidé à faire la stratégie. Elle sait trouver le temps quand elle sent, parce qu'elle connaît bien, elle connaît vraiment bien les fondateurs généralement. Donc, elle sait que quand vraiment je vais dire, bon, bah là, ça va vraiment pas, je suis bloquée, elle va toujours trouver le temps. Toujours. Mais si elle sent que c'est un mini problème que je peux en vrai régler toute seule, si je suis tranquille 3 minutes et demie, elle va me dire, écoute, là, c'est pas le moment, dans un mois, oui. Et puis forcément, en un mois, j'ai carrément trouvé la solution.
T'as réglé le problème, ouais. Alors, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé après et est-ce que, enfin, raconte-nous les points essentiels et les gros changements dans ta walk jusqu'à aujourd'hui et ta vision pour le futur.
Il y a tellement grossi le site.
T'as apporté des fonctionnalités supplémentaires.
Bah, on en a plein. Enfin, maintenant, on a tout, on a toutes les tag news, on a tout. Toutes les interviews des designers, des influenceurs, on a toute la catégorie des mannequins, on a les tag trends qui marchent super bien, qui sont les tendances par mots-clés les plus tapées en structure de collection. On a tellement de trucs sur le site, on peut acheter tout le street style en affiliation. On a quand même de la très bonne donnée qui nous permet d'aider vraiment beaucoup d'acteurs dans l'industrie sur plein de niveaux différents, donc c'est hyper intéressant. On fait vachement de consulting extérieur pour de la strat.
Ouais, parce que, alors, c'est la question ouais. qu'on te pose tout le temps, mais le modèle économique, ça consiste en quoi?
Ah bah, c'est toujours le même, hein. C'est que les marques qui ne défilent pas peuvent payer pour être référencées au même niveau que les défilés, donc ça, c'est hyper subjectif. C'est littéralement j'aime ou j'aime pas. Enfin, pas littéralement, parce qu'il y a des marques, on a trop de marques du même style, donc on doit attendre un peu pour pas non plus qu'ils soient tous confondus, etc. Le but, c'est vraiment d'aider une marque. Donc si je mets 3 designers qui font la même chose... Pour les jeunes designers, ça va vraiment pas, enfin, ça va pas les aider. Donc, on fait hyper attention. Donc, ça, c'est un pôle. Le deuxième pôle, c'est l'affiliation. Donc, on travaille avec toutes les marques ou tous les sites e-commerce où, en fait, on référence toutes les pièces qui sortent des défilés et qui les amènent vers leur site. Ça leur donne du trafic. Ensuite, on a la donnée. Donc, ça, c'est vraiment plutôt privé. C'est vraiment, on travaille avec des groupes qui ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur marque à eux. Dans leur groupe à eux, dans leur structure de collection, est-ce que les mots-clés correspondent un peu à leurs tendances, etc. Et le quatrième poste, c'est qu'on fait beaucoup de consulting, assez inconsciemment, en strat digital, en strat de micro-influenceurs, strat en stratégie, et en stratégie de contenu. Et je pense que c'est venu...
Mais concrètement, tu peux nous expliquer pour mes auditeurs ?
Concrètement, une marque va nous dire, OK, nous, on aimerait bien faire des cadeaux à des gens. On ne sait pas quoi faire comme cadeau, et ni à qui les faire, et ni comment les faire. Concrètement, c'est ça, une partie. Et donc, nous, on va analyser la marque, on va dire, OK, on va analyser leurs acheteurs, qui sont leurs consommateurs, quel est l'ADN de la marque. On leur dit, OK, bah, nous, ce qu'on conseillerait de faire, c'est d'envoyer à ces gens-là, de cette façon-là, à cette période-là. Et l'impact est assez gros, en vrai. Quand c'est bien fait, c'est très bien fait. Quand c'est mal fait, que ça va à tout le monde, souvent, ça se perd un peu. Ensuite, on fait pas mal des stratégies en consulting de contenu. Donc, on a des marques qui nous disent, bon, bah, les journalistes veulent pas trop parler de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner des news qui soient intéressantes? Donc, nous, pareil, on reprend de l'ADN.
Et là, tu as recruté des gens pour qui c'était vraiment le métier de faire ça?
Non.
Alors, c'est quoi la vision à plus long terme? Comment tu vois les choses Enfin, ça va tellement vite déjà, j'ai envie de te dire à dans 6 mois.
Ouais, 6 mois, c'est déjà long. Ouais. Non, là, tout à gauche est en train de devenir achetable. Toutes les pièces de tous les défilés, tout est en train de devenir achetable. Ça va sortir là. Et après, on souhaite vraiment se concentrer sur... Il y a plusieurs choses sur lesquelles on se concentre. On va faire toutes les Fashion Week du monde entier. Là, ça sort, ça va sortir. Là, on commence. Donc, on commence avec Séoul, je pense, qui est en ce moment.
Donc là, c'est des gens de chez toi qui vont sur place?
Non.
Non.
Non, non, non. On reçoit les défilés et on les référence. Et ensuite, avec la tech, on commence vraiment... on a déjà hyper bien implanté, mais toute l'intelligence artificielle qui nous permet de scanner des photos et de comprendre les mots-clés d'une photo. C'est assez particulier parce qu'ils comprennent bien les couleurs, etc. Mais nous, ce qu'on leur demande, c'est de comprendre les thèmes. Et ça, c'est plus compliqué pour une machine. Mais on est en train de... Donc là, en termes de technologie, on est en train de devenir...
fort.
Ouais, bon... Enfin, on essaye, en tout cas.
Vous progressez, quoi.
Ouais, exactement, on progresse.
Très bien. Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu pouvais recommencer?
Déjà, je pense que il y a une grande faute dans l'entrepreneuriat, l'entrepreneur, c'est que quand tu n'as pas d'associé, tu te sens fou de là, tu te sens souvent très seul. Mmh. Et quand tu es seul, tu es souvent très vulnérable, surtout à des certaines périodes où tu as un vrai manque, tu es un peu dans un coin et tu as des gens qui vont venir vers toi et qui vont proposer leur service. Et du coup, tu vas les embaucher très rapidement, sans vraiment faire attention. Mmh. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, il y a plein de gens où, moi, quand je recrute, généralement, je recrute vraiment, premièrement, au feeling. Enfin, moi, les écoles, ça m'est égal. Enfin, moi, tout par exemple, ça ne m'intéresse pas des masses, parce que souvent, ça ne veut rien dire. Mmh. Et je pense que prendre plus de recul, plus de temps, et souffler, et faire des choses avec une tête plus froide... Ça, ce serait déjà un truc que je ferais beaucoup plus si j'étais à recommencer.
Mais comment tu peux le faire? Parce que quand tu es dans l'action et que c'est dans ton tempérament de foncer...
Oui, mais c'est là où je dis que maintenant que je comprends les erreurs et les enjeux,
ouais.
Je pense que je dirais à mon propre tempérament, calme-toi deux secondes.
Prends du recul.
Tu vois, tu prends du recul, tu vas trouver la solution. Prends pas la première personne que tu vois tout de suite parce que c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, il y a plein de trucs que je ferais. Les premiers avocats que j'ai pris étaient très mauvais. Très, très, très mauvais. Parce que c'est une grosse dépense, les avocats, et que je voulais pas du tout dépenser cet argent-là dans des avocats. Au final, ça m'a joué un méga tour, parce que j'ai eu un problème, ils étaient pas là du tout. Et en vrai, maintenant, alors là, j'ai appris, j'ai des avocats qui sont... un avocat, en tout cas, qui s'appelle Léon, qui est chez Temim. Et il est génial. Enfin, il est jeune, il a mon âge, il est associé là-bas, il est brillant. C'est quelqu'un qui m'aide tout le temps, qui est hyper impliqué à nouveau. C'est quand même des supports hyper impliqués. Et je pense que je ne referai pas l'erreur de prendre quelqu'un de pas bon, en qui je n'ai pas confiance. Parce que ta boîte, si tu n'es pas entouré par des gens qui sont extraordinairement bons dès le début, elle ne va pas marcher. Ce n'est pas possible. Seul, ça ne marche pas. Littéralement, c'est impossible. Donc ça, je pense que je ferai un business plan.
Ah, t'avais pas de business plan?
Non.
Rien.
Non,
mais quand t'as levé tes premiers.
Ouais, bah oui, j'en ai fait un en
2-2.
En 2-2. Mais. En vrai, je pense qu'à refaire, je ferais peut-être un mini business plan, quoi. Là, j'avais pas de business plan, donc je l'ai vraiment fait parce que j'en avais besoin. Enfin, je pensais pas du tout que Tagwalk serait là aujourd'hui. Je savais que c'était une bonne idée. Mais je pensais vraiment pas que Tagwalk aujourd'hui aurait autant de capacités, avec autant de revenue stream, d'autant de d'endroits différents. Je pensais pas avoir autant de bons CV qui viendraient vers moi. Je pensais pas avoir autant de CV de stagiaires qui viendraient. Enfin, tout d'un coup, ça va très très vite, hein, parce que au final, c'est vrai que c'est pas très très long. Mais donc ça, je referai pas. Je pense que une erreur que j'ai faite, c'est que quand j'avais une question au début, je demandais l'avis de tout le monde. Grosse erreur, parce qu'au final, tout le monde te donne forcément un avis différent et tu te retrouves avec les avis de tout le monde et tu comprends rien et t'es perdu. Donc, il faut prendre tes trois personnes clés. Vraiment, ça peut être ton père, ta grand-mère et ton avocat. Enfin, peu importe. Mais des gens qui vont vraiment te donner un oui ou un non, parce que moi, j'ai écouté tout le monde et au final, je prenais jamais de bonnes décisions, je perdais du temps. Et en vrai, tu la connais, ta décision. Mmh. T'as juste besoin que quelqu'un t'appuie en disant oui, si j'étais toi, je ferais ça. Donc, comme ça, t'es content, mais je sais pas. Moi, je sais que
t'as trouvé ton trio maintenant ?
Ouais, j'ai trouvé. J'ai un peu plus qu'un trio. Je dois avoir cinq personnes vraiment.
Dès que t'as une décision à prendre, tu les consultes.
Sur qui je peux vraiment, vraiment appuyer, ouais. Et qui sont. Moi, je suis très transparente. Hein, donc, c'est un autre truc. Alors, c'est pas un conseil à refaire parce que j'ai toujours été comme ça, mais plutôt pour les gens qui écoutent, les auditeurs, il faut vraiment être transparente, toujours. Parce que tes investisseurs vont toujours savoir la vérité. Tes avocats vont toujours connaître la vérité, tes employés vont toujours connaître la vérité. Donc, il faut vraiment essayer d'être le maximum honnête.
Et pas enjoliver les choses.
Parce que bon, moi, j'ai pas souvent besoin d'enjoliver, mais souvent, il y a des trucs qui marchent pas, qui marchent, etc. Et c'est vraiment important de le dire parce que si tu dis que tout va toujours très bien, personne peut t'aider. Si tu dis là, ça va vraiment pas, j'ai fait une erreur, je sais pas quoi faire, les gens, c'est les premiers à t'aider. Et honnêtement, les plus grands entrepreneurs de France, en France en tout cas, sont des gens où moi je sais que si je leur envoie un email, je les connais pas, hein, je leur dis voilà, je suis un peu tracassée, j'ai des problèmes en ce moment, je vous connais pas, mais j'aimerais beaucoup beaucoup vous voir 15 minutes pour un café pour que vous puissiez m'éclairer, ils le font toujours. C'est des gens qui ont toujours du temps pour les entrepreneurs, qui ont toujours du temps pour aider. Moi, le nombre de temps que je consacre aux jeunes gens qui montent leur boîte, franchement, ça doit être au moins un jour par semaine. Alors que bon, pas non plus, je suis pas non plus la reine de l'entrepreneuriat, quoi. Mais je pense que t'as toujours envie d'aider et t'as toujours envie de donner des conseils et je pense que t'entourer des bonnes personnes, c'est hyper important. Être, moi c'est pareil, c'est juste des conseils, mais il faut vraiment, 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 vraiment être humble, quoi. C'est vraiment, mais c'est le b.a.-ba du truc. Enfin, il faut surtout prendre tout ce qui est négatif. Moi, mon site, il serait pas comme ça si j'avais eu que des gens qui m'avaient dit que c'était bien. J'ai eu que des gens. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était les retours négatifs. Donc, ouais, je trouve pas les moodboards, ça, j'aime pas. Ça, j'ai pas compris. Le login, il est pas bien. Enfin, j'ai eu vraiment tout. Et en vrai, c'est tout qui m'a fait grossir et c'est tout qui m'a fait devenir pas mieux, mais plus performant, en tout cas. Donc ça, je pense que être hyper ouvert d'esprit, c'est vraiment, vraiment important, quoi. Parce que souvent, les entrepreneurs, et j'en connais plein, ils sont tellement contents de leur idée qu'ils n'arrivent pas à comprendre que leur idée n'est pas forcément bonne ou que c'est... Enfin, là, il y a une amie à moi qui a lancé une marque de produits hyper cool, de thé, je ne sais pas quoi, matcha, je ne sais pas quoi, hyper sustainable, tout tralala, sauf qu'elle les offre dans une pochette en plastique. Donc, j'ai dit, franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire ta marque sustainable si tu offres du plastique dedans. Mais en même temps, elle est tellement contente des trucs qu'elle a fait produire par milliers, dizaines de milliers, qu'elle n'a pas envie de stopper. Et je pense qu'elle ferait mieux d'écouter. Et souvent, je comprends, hein, quand t'es entrepreneur et que t'as tellement travaillé pour un truc. Quand on te donne un truc un négatif, c'est pas cassant, mais c'est un peu déprimant.
Ouais, ça fait mal au cœur.
Ouais,
que
ça fait mal au cœur.
C'est ton bébé, quoi.
Ouais, mais c'est vraiment, vraiment important. Enfin, c'est vraiment, ça fait mal au cœur, mais c'est plus t'as mal au cœur, plus tu grandis. Enfin, c'est horrible à dire, mais c'est vraiment la vérité. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Et ouais, donc, mes 5 personnes, ouais, je les ai bien.
Les moments de doute, j'imagine que t'en as aussi, comme tous les entrepreneurs, comment tu les gères?
Je les gère pas très bien, mais moments de doute, j'en ai tout le temps. Tous les jours, pratiquement.
Ah ouais, à ce point-là.
Bah, quand t'es entrepreneur, oui. Enfin, moi, c'est en tout cas, c'est un roller coaster. Enfin, pour moi, c'est le Space Mountain de Disneyland, mais tous les jours. Enfin, c'est qu'un jour, je suis au top, le lendemain, je suis pas bien, le lendemain, je suis au top. Enfin, c'est vraiment, c'est comme si j'étais bipolaire. Je suis pas bipolaire, mais c'est comme si, dans ma tête, ça va du blanc au noir toute la journée. Et c'est pour ça que le mental est vital. C'est que moi, je les gère comment? Bah, je suis pas au top. Hein. Généralement, j'en parle à Margot, qui est avec moi depuis le début. Si ça va vraiment, vraiment pas bien, j'en parlais à un des 5. Ça peut être Carmen ou Léon ou d'autres gens qui sont vraiment proches. Et puis, je suis très pragmatique. Donc, j'essaie de me dire, OK, bon, un problème, une solution, on va la trouver. Mais c'est pas... C'est compliqué, hein. Les moments de doute, enfin, je vois pas dans ton podcast qui va te dire, alors oui, je les gère super bien, je suis au top, je vais faire 3 heures de yoga, puis j'ai beaucoup mieux. C'est franchement où je vais courir et j'ai beaucoup mieux. Oui, je veux bien que le sport t'aide à enlever un peu de cortisol et de stress, mais les moments de doute, c'est compliqué, hein, quand t'as beaucoup de pression et beaucoup de gens derrière toi. Il faut juste communiquer, c'est hyper dur de communiquer tes doutes, mais je pense qu'il faut, moi je les communique en tout cas. J'en parle vraiment. Enfin, je suis genre, qu'est-ce que je fais?
Ouais, t'es open book sur tout, en fait.
Je suis open book sur pratiquement tout. Ouais. Pas tout, mais une grande majorité, ouais.
Est-ce que t'as des outils dans ton organisation, dans la gestion de ton temps, dans ta gestion de tes tâches? Ou même, est-ce que vous avez des outils, vous, en interne, que vous utilisez qui vous font gagner en productivité, en efficacité?
Moi, j'en ai plein, des trop bien. Alors, j'en ai un qui s'appelle Wunderlist. Wunderlist.
Ouais.
En fait, tu mets toutes tes tâches à faire, puis dès que ça va sur ton téléphone et ton indice, c'est synchro. Et dès que c'est fait, t'appuies sur le carré, ça part. Donc ça, c'est trop bien. J'en ai une autre pour toutes les notes de frais qui est incroyable, qui s'appelle Genji. Genji. Trop bien. En gros, tu prends photo ta facture, je sais pas, ton truc au Franprix, et ça te la met directement en note de frais avec la date, l'heure, ça te classe tout. Ça te met tout par Excel, enfin, c'est trop bien, c'est vraiment c'est trop bien ce truc.
Ouais.
Non, franchement, je pense que c'est juste, moi, c'est ces deux trucs-là qui sont vachement bien. Après, l'équipe, on est très, c'est très facile, hein, Tago. T'as un back-office, t'as un Gmail, ça va plutôt... Wunderlist et Genji, c'est vraiment cool, pour le coup.
Keep it simple.
Ouais, il y en a un truc pas mal qui s'appelle Moment, MOE, bah, comme un moment en anglais. Et ça te traque combien d'heures t'as passé sur ton téléphone par jour.
Ça doit être assez flippant.
Ouais, ben justement. Mais c'est bien, parce que ça te permet d'être un peu plus focus. Et de... Mais par exemple, moi, WhatsApp et iMessage, je les ai sur mon ordi. C'est beaucoup plus pratique. Mmh. Et je ne mets pas les notifs. Et quand je regarde, je ne sais pas, toutes les demi-heures, je réponds à ce moment-là. Enfin, ouais.
Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ?
Il y en a plein qui m'inspirent. Nathalie Massenet m'inspire beaucoup. Carmen Busquets m'inspire beaucoup. Sophie Fontanelle m'inspire beaucoup, bien évidemment. J'ai plein de mecs qui m'inspirent, je suis sûre, en plus. Je sais pas. Non, je suis vraiment inspirée par les gens qui font, en fait. Par les gens qui partent de rien ou qui sont fait virer de quelque part et qui font. Pour moi, ça, c'est... Ou des jeunes qui font... qui font vraiment, enfin, c'est pas du bullshit, c'est qui font vraiment, ça m'inspire vraiment. Mmh. À n'importe quel âge, n'importe quelle tête, dans n'importe quel pays, ou même des jeunes marques qui arrivent vachement bien, enfin, ça m'inspire. J'aime bien m'entourer de gens qui sont quand même des gens un peu business, enfin, pas business, parce que c'est pas le bon mot, mais qui sont focus. Ça, c'est hyper important. Enfin, moi, des gens qui papillonnent dans tous les sens, ça va pas. Et il y a plein de gens, je réfléchis à qui m'inspire là. Il y a plein de gens qui m'inspirent. Benjamin Sercio, un pote qui vient devenir directeur de la com chez Vuitton. Il a 32 ans, c'est ouf, hein, il a une ascension de dingue. Mais j'ai aussi Clara Cornet, qui est une amie, qui vient de reprendre un grand poste à 29 ans. C'est dingue. Mais ensuite, il y a Sophie qui s'est complètement retransformée. À l'âge qu'elle avait quand elle s'est retransformée, je sais pas si on je l'aurais dit, parce que je sais qu'elle a aucun problème à le dire. Je trouve ça dingue. Je suis très impressionnée par ces gens qui, très jeunes ou moins jeunes, mais arrivent à faire des parcours hyper impressionnants, hyper rapidement, tout en restant hyper gentils, hyper polis. C'est ça qui est important, hyper humble, hyper ouvert d'esprit, toujours là quand t'as besoin. Et je pense que ces gens-là, c'est ça, leur force, c'est ça en fait. Et moi, c'est pour ça que j'essaye de plus, en tout cas, je pense que je suis comme ça aussi, un peu naturellement, mais c'est hyper important, tous ces gens qui restent hyper présents et qui sont toujours prêts à aider, qui sont toujours prêts à te conseiller, qui sont toujours prêts à prendre le téléphone quand on en a besoin, qui sont toujours prêts à être en contact avec quelqu'un si on en a besoin. Et en vrai, tout le monde, tous ces gens-là fonctionnent un peu pareil. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux hyper agréable, moi, je trouve.
Mais c'est vrai. Mais écoute, ouais, moi, tous les gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent via le podcast, ils partagent tous cette... peut-être pas tous, mais globalement, oui. Ils partagent ces valeurs-là.
Bah, quand ils peuvent, ouais, en tout cas.
Dernière question, vas-y, pour passer le relais. Qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast ?
J'aimerais beaucoup entendre Clara Cornet.
Très bien. Et écoute, merci beaucoup, Alexandra.
Merci beaucoup.
À très bientôt.
À bientôt. Salut.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être parce que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur iTunes et SoundCloud. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcasts depuis votre iPhone et cherchez « Entreprendre dans la mode » dans votre barre de recherche. Allez dans la section « Notes et avis » et laissez un commentaire. Vous pouvez aussi choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.